Allez, vous savez que ce mois-ci, on a engagé le thème de la repentance. Et Pasteur Romaric et Pasteur Marc nous ont donné des bonnes explications sur la repentance. Et ce que je vais dire, en fait, c'est... Je vais reprendre un peu ce qu'ils ont dit, d'accord ? Pour la signification de la repentance. Mais dans la Bible, quand tu lis le mot repentance, ça te parle d'un point de rupture, d'un moment où tu es coincé dans ta vie, d'un moment où le Saint-Esprit, Dieu, te prend et te met en face des réalités, en face de tous tes échecs, en face du mur qui t'empêche d'avancer. Et là, tu te dis oui, en effet, j'y arrive plus. Il faut que je fasse un demi-tour. Il faut que je change de pensée. Il faut que je change de mentalité. Et c'est ça, la Bible, quand la Bible parle de repentance, elle parle de changement de mentalité, de changement d'esprit. Amen. Et un peu comme un enfant qui est pressé d'aller manger le chocolat qu'il y a dans le frigidaire, et là il s'est dit, moi j'y vais. Et peu importe qui y aura, personne ne m'arrêtera, j'irai manger le chocolat. Sur le chemin, son père est dans la cuisine. Ah ! Au final, je vais retourner dans ma chambre. Il a fait un demi-tour, il a changé sa façon de penser, il a changé sa mentalité. Et ce matin, ma prière est que vous ayez ce changement, vous ayez ce petit déclic. Vous savez, il y a un lien entre le Saint-Esprit et la repentance. Qui c'est le Saint-Esprit d'abord ? Avant d'aller plus loin, qui c'est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne qui compose la Trinité. Vous savez, on entend souvent parler de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est vraiment la personne dont on n'entend jamais parler. On sait que Dieu est mis en avant, Dieu le Père est mis en avant, il prend les décisions, il parle avec autorité, il déclare des choses et les choses se produisent. Et il y a aussi le Fils qui est descendu sur terre pour nous sauver. Vous vous posez la question, pourquoi est-ce que Jésus est venu ? Pour démarrer une nouvelle religion ? Non, pour te sauver, pour me sauver. Vous me voyez, vous m'appelez Pasteur Raphaël, vous m'honorez, mais Pasteur Raphaël n'a pas toujours été Pasteur Raphaël. À un moment donné, Raphaël, il était juste comme tous les autres garçons. Il était paumé dans sa vie, il ne savait pas où aller. Mais il a rencontré Dieu. Mais il s'est repenti. Le micro ? Ah pardon, excuse-moi. J'ai perdu le fil. Le Saint-Esprit, voilà. Et le Saint-Esprit... c'est donc cette personne qui est invisible mais qui agit avec puissance. Quand vous lisez la Bible, et je l'ai vu vraiment beaucoup de fois, j'ai pu me rendre compte qu'à chaque fois qu'il y avait un miracle, à chaque fois que la puissance était libérée, vous savez, Jésus, lorsqu'il est mort et qu'il est descendu dans le séjour des morts, là où on mettait tous les morts, il y a beaucoup de morts dans mes phrases. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est descendu et qui a ressuscité Jésus. C'est lui qui l'a fait remonter dans le tombeau et qui l'a fait sortir du tombeau. Et pourtant, on n'en parle jamais. Le Saint-Esprit, dans la Genèse, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Sur la terre, il n'y avait rien du tout. C'était informe, c'était vide. Il y avait les ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu était là et il se mouvait. C'est-à-dire, il planait, il bougeait, il était là. Et le Saint-Esprit avait quelque chose en lui. Et la seule chose qu'il attendait, c'était le top départ de Dieu. Et à un moment donné, Dieu le Père s'est dit « Que la lumière soit ». Et à ce moment-là, la lumière fut. Et la bonne question, c'est, il n'y avait pas de soleil. D'où est-ce qu'elle vient ? Là, le soleil n'était pas encore arrivé. D'où est-ce que cette lumière est venue ? Du Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Il avait toute cette puissance en lui, toute cette lumière qui était capable d'inonder le monde, d'inonder les ténèbres. Il était capable de tout éclairer. Et lorsque Dieu a dit feu, le Saint-Esprit a juste tout relâché. Et la lumière fut. Amen. Et après, il y a eu la création qui s'est passée, le soleil, les astres, la lune, etc., etc. Et ce Saint-Esprit-là, aujourd'hui, il est avec nous. Si vous prenez mes messages, vous verrez qu'ils sont assez simples. Pourtant, souvent, on vient me dire « Merci, j'ai changé, merci », comme Martine tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi est-ce qu'avec des paroles simples, on arrive à donner un impact ? On arrive à amener les gens à la repentance, à changer d'état d'esprit, à changer de pensée ? Le Saint-Esprit, tout simplement. Il est la puissance de Dieu. Et c'est lui qui vient parler. Tout au long de ce message, tu auras cette petite voix dans le cœur qui te dira « Il a raison ». Tu le sentiras au plus profond de toi. « Il a raison. Tu dois changer. Il a raison. Tu es devant un mur. Il a raison. » Et tu verras, lorsque je te demanderai de venir prier, tu viendras prier. Et pourtant, mes mots auront été très simples. Et ce Saint-Esprit, lorsqu'il parle de la repentance, il utilise toujours quelqu'un. « Aujourd'hui, c'est moi. » Mais toute la semaine, c'est toi. Toute la semaine, il est avec toi. Toute la semaine, il t'accompagne. Toute la semaine, il te dit, va parler à ceux qui ne méritent pas Jésus. Va parler à ceux que tu considères comme tes ennemis. Va parler, va parler. Et tu verras, tu y vas et les gens t'écouteront. Vous avez tous vu ma vie, enfin, vous avez certainement vu ma vidéo cette semaine. Je vous ai lancé une invitation spéciale à inviter tous les ennemis de Dieu. C'était intentionnel, bien entendu. Parce que les ennemis de Dieu doivent devenir les enfants de Dieu. Et à l'église M, on croit vraiment à ça. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier le pasteur Romaric, qui doit être en train de bondir sur sa chaise, parce que j'ai oublié. Mais je tiens vraiment à le remercier, parce qu'il m'a laissé sa place, il m'a laissé son pupitre. Vous savez, c'est lui qui travaille pour qu'on puisse être là. Et je reconnais son autorité. C'est très important toujours de donner honneur aux gens. Et je reconnais que je suis dans ses pas, et c'est vraiment pour moi une bénédiction de pouvoir le représenter. Je lui fais, comment dire, je remercie pour sa confiance. Et c'est pas évident avec moi, parce que souvent je l'embête. Mais il persévère. Et je le remercie vraiment du fond du cœur pour lui et pasteur Céline aussi. Ça. Qui c'est qui... Hélène, viens, s'il te plaît. Léa, viens, s'il te plaît. Attrape-lui la main de l'autre côté. Allez, Hélène. Avant d'aller plus loin dans mon message, et aujourd'hui, j'ai un bon message à parler, à vous partager, qui est actuellement sur l'apôtre Pierre. Et son message, enfin, sa vie, ce qu'il a expérimenté, a toujours été pour moi, ça m'a vraiment parlé. Parce que lui, c'était un monument. Lui, quand Jésus lui disait « Viens sur l'eau avec moi », il sautait. Quand il fallait sortir l'épée pour se battre, le gars, il allait à la bagarre. Jamais il s'arrêtait. Jamais, jamais. Il était constamment avec lui et c'était vraiment un monument. Pourtant, aussi grand qu'il ait été, aussi puissant qu'il a été, sa chute a été terrible. Et bien souvent, quand on parle de l'apôtre Pierre, on se souvient que de ses échecs, à cause de tout ce qu'il représentait, à cause de tout ce qu'il était. Pourtant, Pierre a connu une repentance. Le Saint-Esprit l'a amené dans un endroit où il pensait jamais aller. Et il a été transformé. Et c'est quelque chose que je vais vous partager après, mais j'aimerais vous donner un petit encouragement pour vous la semaine. Et ma sœur, t'as pas mis le réveil. Pas le réveil, là. Bon, j'ai gagné 10 minutes. Cool. J'aimerais vous donner une petite pratique à faire pour chacun d'entre vous. Et cette pratique fait partie de mon message, de la repentance. Il y a des fois dans la vie, les choses paraissent normales. On se réveille avec ça et on se couche avec ça. Mais vous savez, si vous ne commencez pas... Désolé pour la caméra, hein, je ne sais pas si elle pourra me suivre. Si vous ne commencez pas à marcher normalement, si vous ne commencez pas à vous dire les choses vont changer, si vous ne faites pas un premier pas, si vous ne pratiquez pas, il n'y a rien qui se passera. Et moi, je suis convaincu qu'un chrétien, lorsqu'il se lève, lorsqu'il commence à marcher, Dieu agit. Et même si dans le miroir, il se voit, il se dit « Non, il n'y a rien qui se passe, je marche toujours pareil. » Jour après jour, je suis né avec ça. J'ai jamais pu m'en échapper. Tu sais quoi? Chaque matin, Dieu est là pour renouveler ses compassions. Et Dieu est là pour te faire marcher. Et ma sœur, regarde-moi. Tu le crois? Il faut se mettre en pratique. Il faut se mettre en marche. Si on ne prend pas d'action, si on ne descend pas dans la mer ne se séparera jamais. Alors tous les jours, dis-toi, je suis guéri. Je marche normalement. Amen. Tu crois? Je suis exactement comme toi. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement aussi, j'ai des fois du mal à marcher. Et constamment, je dois m'encourager. Je suis comme toi, je cherche du travail aussi. Et je galère, j'arrive pas à en trouver. Pourtant, mon Dieu est grand. Pourtant, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Mais tu sais quoi? Tous les jours, je m'encourage. Et dans les moments où je suis bas, j'ai toujours un frère, une sœur ou mon épouse qui m'encourage pour dire « Lève-toi. Lève-toi et n'abandonne pas. » Jésus était en train de faire un grand discours et disait, les amis, Dieu m'a donné son royaume, il l'a disposé pour moi, et on sait que Jésus a fait des grands miracles, il a ressuscité les morts, il a marché sur l'eau, il a fait de la multiplication, etc., etc. Et Mon Papa céleste m'a donné mon royaume. Et pour vous, mes disciples, je vous donne son royaume. Je vous en disposez et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Et tout le monde était heureux d'entendre ça. C'était le dernier repas avant la crucifixion. Tout le monde était heureux. Et Jésus lui dit, oui, vous serez avec moi. Vous mangerez à ma table, vous boirez à ma table et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et tout le monde était heureux. Oui! Et d'un coup, Jésus s'arrête et dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé et il a demandé à cribler ta foi. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, quand tu te seras converti, c'est la repentance. Quand tu te seras converti, affermis tes frères. Et on connaît tous l'apôtre Paul, qui est le genre de gars qui, lui, il a peur de rien. Moi, jamais. Moi, je serai avec toi jusqu'à la mort. J'irai en prison avec toi, j'irai à la mort, je me battrai, je ferai tout pour toi. Jamais je te renierai. Ce sont des histoires qu'on peut lire dans différents évangiles. Et Pierre vraiment insistait sur le fait que lorsque tout le monde t'abandonnera, je serai avec toi et je tiendrai bon. Et Jésus va prier dans le jardin avant de se faire livrer. Judas arrive et Jésus regarde Judas et lui dit « Mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. » Judas l'embrasse et les soldats savent que c'est lui Jésus c'est la personne qu'ils doivent arrêter. Ils attrapent Jésus et Pierre est là avec son épée. Vous savez, Pierre, c'est pas un froussard. Il a sorti son épée et il a coupé l'oreille d'un serviteur. Vous voyez, il a tenu sa parole. Il a dit, il a fait exactement. Il n'a pas abandonné Jésus. Il s'est même battu pour Jésus. Il était prêt. Et là, quand il a vu Jésus se faire capturer, il s'est dit, c'est le moment de la révolution. Maintenant, on va se battre et on va libérer le peuple d'Israël. On sera libre des Romains. Il n'y aura plus de colonisateurs. Et maintenant, on fera ce qu'on veut dans notre pays. On sera libre. Et Jésus prend l'oreille du serviteur et la recolle. Et Pierre ne comprend pas. Et Jésus lui dit, est-ce que je ne boirai pas la coupe de mon Père ? Est-ce que toi, Pierre, tu vas changer la volonté de mon Père ? Vous savez, Pierre, dans un certain sens, on se retrouve tous en Pierre. Parce que Pierre, il sait tout mieux que tout le monde. Jésus lui a dit, je vais mourir ? Non. À Dieu ne plaise, tu ne mourras jamais. Et bien souvent, en tant que chrétien, nous, on sait mieux que Dieu. Dieu a établi les choses avant la fondation du monde, avant de créer la terre, mais moi, je sais mieux que lui. Et si aujourd'hui, j'ai dit que je ne passerai pas, je ne passerai pas. Oui, t'inquiète pas, le coq n'a pas encore chanté pour toi. Ce qui s'est passé à Pierre, il y a eu... À un moment donné, il y a un animal, on ne sait pas, il est sorti d'où. Mais il ne comprend pas, Pierre. Il est avec son épée, et il voit son maître lui dire, « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. » Et à ce moment-là, il lâche son épée, et dans sa tête, il rentre en confusion. Exactement comme des fois quand on est tellement sûr de soi et au final, on s'écrase contre le mur et dans la tête, c'est juste la confusion. À ce moment-là, Satan a commencé à cribler Pierre, a commencé à tester sa foi, à éprouver sa foi. Mais il faut se rappeler durant toute cette histoire que Jésus a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille pas. Et le Saint-Esprit, comme je vous le disais, peut-être qu'on n'entend pas parler de lui dans cette histoire, mais il est là bien présent avec Pierre. C'est actuellement lui qui soutient Pierre dans sa foi. Il s'enfuit, Jésus se fait attraper, il se prend des paires de gifles par tout le monde, les gens se moquent de lui, ils vont dire « Ah, c'est lui le sauveur ?» Et on le juge, on fait venir des faux témoins. Et Pierre arrive. Au final, Pierre, quand même, il a eu un peu de courage, malgré qu'il ne comprenait pas, malgré qu'il était dans la confusion et qu'il s'est enfui avec les autres disciples, il est quand même revenu dans la cour. Et il pouvait voir Jésus d'où il était. Et il voyait Jésus se faire frapper. Et il y a une dame qui arrive, il est devant un feu, c'est la nuit, il se réchauffe. Une dame qui arrive et dit « Mais toi, tu es celui qui était avec Jésus ?»« Oh non, je ne connais pas. Moi, je ne le connais pas. » Vous savez, juste avant, je crois que je ne l'ai pas précisé, hein, Jésus lui avait dit « Avant que quand le coq chantera, tu m'auras déjà renié 3 fois. » C'est bien, vous connaissez l'histoire. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Et Pierre est devant le feu et cette femme lui dit « Je te connais, je te reconnais, tu es avec Jésus. » « Non, c'est pas moi. » Deuxième personne qui arrive, « Ah si, je suis sûr que tu es avec lui, on te reconnaît. » « Non, je ne suis pas avec lui, je ne le connais pas. » Et la troisième fois, la personne vient et lui dit « Si, je te reconnais. » Et lui, il commence à utiliser Dieu et à dire « Que Dieu m'en soit témoin, je ne connais pas cette personne là-bas. Je ne l'ai jamais vue. Elle ne m'intéresse pas. Je suis là pour une autre raison. Vous voyez? J'espère que c'est pas le cas, mais on peut avoir cette attitude-là aussi face à Jésus. Et quand il parlait comme ça, pour la troisième fois, lorsqu'il a renié Jésus, le coq a chanté. Et là, Pierre s'est remémoré tout ce que Jésus lui a dit. Tu m'auras renié trois fois. Et le coq chantera. Et Pierre s'est rappelé aussi qu'à ce moment-là, il avait dit, moi, oh là, jamais. Jamais je vais te renier. Jésus lui répondit, oh là, oh là, jamais. Jamais je te renierai. Et pourtant, le chant du coq. Vous savez, je prends souvent cette histoire, le chant du coq, comme un rappel du Saint-Esprit, comme un moment déclenchant, un point de rupture, un moment où tellement sûr de toi et d'un coup, bam, au final, tu te retrouves face à toi-même, face à ta réalité, celle que tu as créée et qui n'est pas du tout de Dieu, celle qui est informe et vide, et tu ne sais plus quoi faire. Et là, tu te mets juste comme Pierre à pleurer amèrement. C'est une histoire qui me touche parce que Pierre avait été quand même assez courageux. Quand il était dans la cour, les dix disciples n'étaient pas avec lui. Eux, ils s'étaient sauvés, c'est tout. Ils étaient rentrés chez eux ou je ne sais pas quoi. Mais Pierre était là. Et quand il a entendu le coq, il a regardé Jésus et Jésus l'a regardé. Vous savez, je trouve que c'est beau. Parce qu'au milieu de toutes les paires de baffes qu'il était en train de se prendre pour toi et pour moi, parce que c'est pour nous qu'il est mort, hein, il a regardé Pierre. Et les deux ont eu ce qu'on appelle eye contact. Ok, eye contact, je ne sais plus en français. Je viens des États-Unis. Mais imaginez-vous, après avoir dit, on a tous trahi quelqu'un. Et le plus dur, on le sait tous, le plus dur, c'est de devoir affronter le regard de la personne qu'on a trahi. Et généralement, on ne veut pas regarder la personne dans les yeux. Parce que dans les yeux, il y a quelque chose de spécial. Et Jésus a regardé Pierre, les deux se sont regardés, et Pierre est parti à pleurer amèrement. Vous vous rendez compte à quel point c'était terrible pour Pierre? Il a passé 3 ans avec Jésus, il a marché sur l'eau, il a vu les miracles, c'était un ami intime de Jésus. Lorsque Jésus s'est transfiguré, c'est-à-dire que son visage s'est mis à briller dans la montagne, il était là, Pierre, il faisait partie des intimes. Et au final, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a juste renié son ami quand il en avait le plus besoin. Il n'était pas là pour Jésus-Christ. Et ce qu'il y a de beau, c'est que Jésus, en le regardant, moi je pense que Jésus n'avait pas de colère. Je pense qu'il était, comment dire, je pense que Pierre a dû voir la compassion dans les yeux de Jésus. Peut-être que dans les yeux de Jésus, il a vu ou il s'est rappelé les paroles qu'il lui a dit, « J'ai prié pour toi. » Amen. Est-ce que vous aimez ce genre de Dieu où tu fais ta tête? Tu es tellement convaincu que c'est toi qui as raison, tu t'écrases et la seule chose que ton Dieu te fait, c'est de te regarder dans les yeux, te dire « Je suis là, j'ai prié pour ta foi, n'abandonne pas, continue, lève-toi. » Amen. Pierre part et on n'entend plus parler de lui. Et Jésus doit porter sa croix seul, sans ses disciples. À un moment donné, c'est trop lourd pour lui, on fait venir un gars, un Africain actuellement, de Cyrène, qui s'appelle Simon. Et on lui dit, tu portes la croix avec Jésus. Il y va, il se fait clouer, on l'expose devant tout le monde. Le temps passe et Jésus meurt. Et vient ensuite sa résurrection. À ce moment-là, on réentend parler de Pierre. Et je ne sais pas si c'est une blague, enfin pas une blague, mais c'est vraiment intentionnel. Mais quand Marthe et Marie vont au tombeau, ils voient un homme dans le tombeau. J'ai de la chance, j'ai les éléphants avec moi. Il va au tombeau et là, il y a un ange qui est assis. Et écoutez bien ce que l'ange dit. Allez voir les disciples. Parce qu'il est ressuscité. Allez voir les disciples. Et Pierre. C'est vrai que moi, c'est le genre d'humour que j'aime bien. Genre, le gars, il essaye de se cacher et c'est vraiment lui que je vais exposer devant tout le monde. Là, franchement, je kiffe faire ça. Mais dans les cieux, dans sa résurrection, Jésus dit à l'ange, « Ok, tu vas parler à Marthe et Marie et tu leur dis, « Les disciples et Pierre. » Vous voyez, Pierre n'a jamais été oublié. Parce que Jésus lui a promis, « Je prierai pour ta foi. » afin qu'elle ne défaille pas. Et Jésus, je sais, j'en suis convaincu, que Jésus est constamment en train de prier pour notre foi. Et des fois, tu te dis, mais non, il n'y a que Pasteur Marc qui a prié pour ma foi. Mais qui c'est qui vit en Pasteur Marc ? Qui c'est qui vit en toi ? À chaque fois que tu pries pour quelqu'un, c'est Jésus qui prie pour quelqu'un. Tu vois, la parole de Jésus n'est pas tombée à terre. Elle continue à être transportée. Et tant qu'il y aura des générations après, cette parole continuera. Et l'histoire se passe, ça continue. Jésus apparaît à plusieurs personnes. Et un matin, Pierre va pêcher. Et il a une bonne idée. Il se dit, ah, je vais aller pêcher tout nu sur un bateau. Et il y va. Et rigolez pas, c'est écrit. Hein. Enfin, ce que je veux dire, ne me le reprochez pas, c'est écrit dans la Bible. Mais moi, je trouvais que c'était une drôle d'idée. Parce que personnellement, si je vais avec mes frères en Christ pêcher, j'éviterai ce genre de comportement. Mais bon, il y était. Et en plus, il était nul parce que à chaque fois qu'on parle de lui en train de pêcher, il attrape jamais de poisson. Mais bon, c'est mon avis personnel, d'accord ? Il est dans le bateau et il y a un gars au bord de l'eau qui lui dit « Allez, venez, on n'a rien attrapé, patati, patata. Ok, jette ton filet de l'autre côté. » Et il jette son filet, il le jetait d'un côté, donc il le jette de l'autre côté. Et là, le filet est rempli. Et le disciple, un jeune disciple, celui que Jésus aimait, lui dit « C'est le Seigneur. » Et là, Pierre se rhabille et il va au bord. Et qu'est-ce qui se trouvait au bord ? Qu'est-ce qui se trouvait au bord, à part Jésus ? Il se trouvait un feu. Exactement comme Pierre, dans la nuit, devant ce feu, lorsqu'il a renié Jésus, il se retrouve le matin. Et j'aime bien l'analogie, c'est qu'il y a la nuit et le matin. Et il retrouve Jésus devant un feu, le matin, avec de la nourriture. Et Jésus a de la compassion pour lui, il dit... J'ai trois questions à te poser, mais d'abord mange, ça va te faire du bien, t'en auras besoin. Vous voyez, je vous dis, encore de la nourriture, on est là pour manger les gars. Si vous voulez m'inviter après, je suis d'accord. Il lui dit, vas-y, mange du pain et du poisson. Donc Pierre mange, et une fois qu'il a fini de manger, une fois qu'ils sont tous rassasiés, Jésus lui dit, attends, j'ai une question à te poser, est-ce que tu m'aimes ? Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Si vous regardez la traduction en grec, Jésus lui dit agapeo. C'est vraiment l'amour dans tout son sens, l'amour divin, vraiment comme un amour énorme. Et c'est ce que Jésus dit à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes énormément ? Est-ce que tu m'aimes plus que tout ? Et la réponse de Pierre, Pierre n'utilise pas le même mot. Pierre dit, oui, je t'apprécie. Dans la Bible, c'est marqué j'aime, mais j'aime, c'est philéo. Et philéo, c'est aussi un amour... Pardon ? Oui, apprécier, voilà, j'ai utilisé ce mot pour faire plus simple. Et Jésus lui demande une deuxième fois. Vous voyez, on repart devant ce feu, cette nuit-là, où Pierre, pour la deuxième fois, dit « Je ne connais pas ce gars-là ». Et Jésus lui demande « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes énormément ? Tu sais toutes choses, tu sais que je t'apprécie. » Et Jésus lui dit « Paix mes brebis ». Alors, paix, c'est paître, fais-les manger, voilà, c'est ça. Prends soin de mes brebis. Troisième fois, Jésus change et lui dit, est-ce que tu m'apprécies ? Et Pierre, il est, c'est émouvant toujours, parce que franchement, sincèrement, je me retrouve beaucoup dans cette histoire. Jésus descend à son niveau et lui dit, est-ce que tu m'apprécies ? Et là, Pierre, il est triste. Encore une fois, pas de la même tristesse que lorsqu'il l'a renié, mais il lui dit, mais tu sais toute chose, tu sais que je t'apprécie. Il reste sur son « j'apprécie ». Une des raisons pour laquelle, je m'imagine, une des raisons pour laquelle Pierre est resté sur ce mot, c'est qu'il ne se sentait plus digne de dire « moi j'aime Jésus ». Comme avant, quand il disait « moi je t'aime », peu importe ce qui est. Comme je vous le dis, Pierre, encore une fois, il avait eu des révélations de fou en ce qui concerne Jésus. Ça a été un des premiers à dire « tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Donc lui, il était fier de dire « j'aime ». Mais après son histoire, après son embrouille, il ne pouvait plus le dire. Et il était juste dans ce petit amour, « Oui, je t'apprécie. Oui, oui, tu sais que je suis là. » Et Jésus lui, la troisième fois, Pierre lui dit, « Mais tu sais toutes choses. Tu sais que je t'apprécie. Tu le sais, que tu es important pour moi. » Et à ce moment-là, Jésus lui donne la façon dont il va mourir. Et notez bien la réponse de Pierre, il n'a rien répondu. Pierre avait appris sa leçon. Vous voyez, lorsqu'il était dans cette cour, devant le feu et que le coq a chanté, actuellement, c'était le moment où, personnellement, je crois que le Saint-Esprit lui a parlé, lui a ouvert les yeux, en lui disant « Regarde ». Vous voyez, comme je vous disais, la repentance, c'est qu'à un moment donné, on est bloqué. À un moment donné, on ne peut plus avancer par soi-même. Et dans ce moment-là, Pierre a appris, Pierre a compris que sans son maître, il ne peut rien faire. Et est-ce qu'il s'est senti coupable ? Oui. Est-ce qu'il s'est senti comme un gros naze ? Oui. Oh, il était le pire de tous. Après avoir fait tout ce qu'il a fait, après avoir dit, après avoir autant brillé, maintenant il se retrouvait au fond du trou. Néanmoins, il y a quelque chose à noter. Jamais il n'a perdu sa foi. Et ça, c'est quelque chose de beau et c'est un message d'espoir pour chacun d'entre vous. C'est que dans vos pires moments, jamais vous ne perdez votre foi. Vos erreurs ne vous définissent pas. Actuellement, vos erreurs ne façonnent pas votre foi. C'est vrai ? Amen. Pour moi, ça a été décisif. La nuit où il a renié Jésus, ça a été une nuit décisive. Et ça n'a pas été une nuit qui a façonné Pierre. Non, c'est une nuit qui a été un marqueur pour lui. Un marqueur dans sa vie. Un marqueur où toutes les fois où il a dû affronter des épreuves, après, il s'est rappelé ce moment. Jamais plus je renierai. Vous voyez, c'est ça un marqueur. C'est une marque. Ça l'a marqué. Et il vivait avec ça. Vous savez, Pierre, après, il est devenu... C'est quelqu'un de... comment je vais dire ça ? Il a eu une vie extraordinaire juste après ça. Il n'a plus du tout été le même une fois que Jésus l'avait restauré. Et la légende, on va dire la légende, ou... La légende ou la... Comment dire ? L'histoire, parce que ça a été enregistré par certains historiens, raconte que Pierre était à Rome et il s'est fait condamner à mort. Et là, il arrive. Et sa mort, elle était... comme celle de Jésus, la crucifixion. Et je me demande bien qu'est-ce qu'il a eu en tête à ce moment-là lorsqu'il était face à sa croix. Peut-être qu'il s'est rappelé ce qui s'est passé. Parce que la légende nous dit que Pierre, lorsqu'il était face à la croix, face à sa condamnation à mort, il a dit « Je ne suis pas digne de mourir comme mon maître, crucifiez-moi la tête à l'envers ». Vous vous rendez compte à quel point ça a été un marqueur dans sa vie, cette petite soirée où il a renié son maître 3 fois ? C'est que devant cette croix, là où il était prêt à être tué devant tous, et pour le plaisir des gens, c'était l'empereur Néron, il se dit « Non, je ne suis pas digne. Moi, je ne dois pas mourir comme Jésus. Jésus, c'est mon maître. Il a tout fait pour moi. Et je ne suis pas digne. Je refuse de mourir comme lui. » Crucifie-moi la tête à l'envers. C'est quelque chose de fou quand vous y pensez. Et pourtant, ça fait partie de la transformation dans la repentance. Et le Saint-Esprit vous aide durant tout ce process. Il y a certains événements qui sont marquants dans votre vie. Il y a certains événements qui font que, comme je dis, vous êtes marqués à vie. Et pourtant, le Saint-Esprit est là. Et si vous arrivez à vous en rendre compte, si vous entendez cette voix aujourd'hui qui vous dit « Tu es dans un tournant. Aujourd'hui, tu dois prendre position. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision. » Aujourd'hui, ça sera un marqueur pour toi. Amen. Je vais faire peut-être un appel à la prière. Je pense que c'est pertinent. Comme je l'ai dit au commencement, il y a un lien qui est indissociable avec le Saint-Esprit. Un lien entre la repentance et le Saint-Esprit qui est indissociable. Sans le Saint-Esprit, la repentance n'est pas possible. Et si aujourd'hui tu entends cette petite voix qui te dit « C'est toi, vas-y, viens prier, va prier avec le pasteur », alors c'est simplement le Saint-Esprit qui est en train de parler. Des fois, on s'imagine que Dieu va venir en grande révélation, qu'il va tout déchirer, un peu comme le prophète Élie à l'époque, qui s'était sauvé et qui devait parler avec Dieu. Et il y a eu un vent qui déchirait les rochers, il y a eu un tremblement de terre, et la Bible dit « Mais l'Éternel n'était pas là ». Pourtant, il approchait. Il y a eu un énorme feu, mais l'Éternel n'était pas là. Et tout d'un coup, il y a eu un murmure. Et dans ce murmure, l'Éternel était là. Vous voyez, des fois, tu n'as pas besoin de grandes révélations, tu n'as pas besoin de demander à Dieu de te prouver sa présence. Tu as juste à entendre ce petit murmure qui est à l'intérieur de toi. Et des fois, tu peux te dire aussi « Mais... » Il est bien joli ton message, pasteur, mais c'est pour les chrétiens, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus et qui ont commis... Non, c'est pour toi aussi. Si aujourd'hui tu n'as jamais rencontré Jésus, tu peux le rencontrer. Peut-être que tu as écouté ce message et tu sens quelque chose. Tu n'as peut-être pas tout compris de ce que j'ai dit, mais tu le sens, ça t'appelle. Il y a quelque chose de différent. Je sais que si je vais devant prier, il y a quelque chose qui va se passer. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est ce petit murmure. C'est lui qui est en train de t'amener à la repentance. Et je vous invite à venir devant. Si vous voulez compris ensemble. Amen. Je vous invite. Ah, vous voulez la musique? Allez, la musique, s'il vous plaît. Dimanche après dimanche, on appelle les gens à venir, pendant qu'ils se mettent en place, on appelle les gens à venir prier devant. Et la bonne question, c'est pourquoi devant? Pourquoi est-ce que je dois me lever publiquement et accepter Jésus publiquement, prier publiquement? Eh bien, tout simplement parce que Jésus est mort publiquement. Il a été exposé pour nous tous. Et venir devant, c'est vraiment un acte qui accompagne la repentance, où on se dit, maintenant j'ai entendu cette voix, maintenant je veux changer et je la confesse. Amen. Et je vous invite devant. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Je sais qu'il y en a qui nous regardent. Et j'ai oublié de vous citer. Désolé, je suis très heureux de vous voir. Enfin, de savoir que vous êtes là. Parce que de voir, je vois juste ma sœur Céline qui est en face. Très belle. Et vous avez, moi j'ai la conviction que le Saint-Esprit est omniprésent. Il peut être avec nous ici et il peut être à Toulouse, il peut être à Montargis, il peut être à Nice à l'hôpital. Et je vous invite aussi, si vous voulez prier avec nous tout à l'heure, je vais faire une petite prière et les gens vont répéter, je vous invite à venir. Et je sais que peut-être si tu es dans ton salon et que ça te fait drôle de te lever dans ton salon comme ça, c'est pas grave, fais-le, parce que le Saint-Esprit est avec toi, il veut te parler.